Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il n'est pas évident de prendre la parole au bout d'une heure, presque une heure et demie de débat, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et je vais apporter, pour ma part, un regard avec trois points de vue. Le point de vue du parlementaire en sursis, que je suis, le point de vue du militant non-violent, que je suis resté, et le point de vue du citoyen. Alors, sur le fond, évidemment, nous sommes tous convaincus aujourd'hui de la situation dans laquelle se trouve la Palestine, une situation d'occupation et donc une situation de colonisation. Tant que parlementaire censé participer à la rédaction de la loi, c'est très difficile lorsqu'on est dans l'opposition dans ce pays, je suis évidemment sensible au droit. Parce que c'est le droit qui fonde la paix dans toute société. Une société qui n'a pas de règles de vivre ensemble ne fonctionne pas. Or, dans le grand village planétaire dans lequel nous vivons les uns les autres, il existe un droit, c'est le droit international. À partir du moment où un pays s'assoit systématiquement sur toutes les résolutions qui sont votées, par les représentants des différents pays du monde, à savoir les Nations Unies, cela crée évidemment une situation gravissime. Parce que si on peut s'asseoir sur le droit, ça ouvre la porte à toutes les violences, pas simplement en Israël et Palestine, tout simplement parce que le droit n'existe plus, le droit ne devient que des déclarations d'intention. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors évidemment, le premier droit pour le peuple palestinien, c'est son droit à l'autodétermination et donc le droit de bénéficier d'un État. Et ça commence par un territoire. Et aujourd'hui, l'État palestinien n'a même pas l'intégrité territoriale. L'État palestinien, aujourd'hui, ce sont des bantoustans. Ce sont des bantoustans et nous ne pouvons plus, évidemment, espérer le moindre, et ne pouvons plus espérer le retour de la paix dans une situation de ce genre. Et ce qui est gravissime, c'est que la communauté internationale a globalement abandonné toute action diplomatique. Et lorsque l'action diplomatique ne fonctionne plus, il n'y a qu'un seul moyen pour moi, pour bouger les lignes, pour créer un espace de paix, ce sont les pressions économiques. Ça a marché à l'époque de l'Afrique du Sud, les campagnes de boycott. Moi, je crois honnêtement, nous n'avons pas d'autre moyen aujourd'hui, à grande échelle, de faire pression, puisqu'Israël ne bougera pas tant qu'on ne lui aura pas mis la pression. Le deuxième point, c'est le point de vue des militants non-violents. Et je crois que pour nous, c'est important, si nous voulons développer notre campagne, de partir du point de vue, probablement faussé, évidemment faussé, de nos concitoyens. Quand on discute avec les citoyens lambda, ils disent, bon, il y a une spirale de violence, il y a des violents de chaque côté, il y a des extrémistes de chaque côté, et c'est pour ça que la paix n'arrivera pas. Ils n'ont pas tout à fait tort, dans ce sens que lorsque la violence démarre, elle est incontrôlable. Elle est incontrôlable et elle s'auto-entretient. Il est évident que la colonisation forcenée, menée à tout prix par les Israéliens, ne peut que provoquer aujourd'hui des déséquilibres au sein de la population de Palestine et ne peut que renforcer, j'allais dire, les positions les plus radicales. Et symétriquement, les activistes palestiniens ne peuvent que renforcer au sein de la population juive les plus radicaux. Et donc on arrive à une situation qui pourrait apparaître comme symétrique. Eh bien nous devons dire non. Nous devons dire non parce que la première violence, c'est la violence structurelle. Et la violence structurelle, par définition, on ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'elle n'est pas médiatisable. Parce qu'elle n'éclabousse pas. Parce que le sang ne gicle pas. Et les médias ont besoin de ça. Les publicistes ont besoin de ça, les télés ont besoin de ça. La violence structurelle, c'est ce que vit au quotidien, ce que vit au quotidien le peuple palestinien. Lorsqu'on construit le mur, lorsqu'on empêche les paysans d'aller récolter leurs olives, etc., etc. Vous connaissez, nous le savons. Les gens à qui nous adressons en général ne le savent pas. Et nous devons absolument insister sur cette violence structurelle qui est à la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas symétrie. Il n'y a même pas symétrie d'ailleurs dans les moyens militaires, dans les moyens de la violence. Face à une armée israélienne surarmée, suréquipée et financée grande partie par les États-Unis, il y a en face des activistes, j'allais dire, qui se débrouillent comme ils peuvent. On a aussi une dissymétrie gigantesque dans la violence qui s'exprime aujourd'hui. Je crois que derrière ce mécanisme, cette spirale de la violence, il y a un calcul des Israéliens, des responsables israéliens, c'est d'empêcher toute solution politique. En disant, voilà, on a des gens trop radicaux en face pour pouvoir gagner. Et en fait, c'est un calcul, pour moi, tout à fait pervers, qui anime aujourd'hui la politique israélienne. Il y a une violence structurelle, et finalement, les Israéliens sont gagnants dans cette spirale qui se défait, qui déferle aujourd'hui. Alors, je crois encore une fois que la paix ne reviendra que s'il y a justice, et la justice ne sera possible lorsque l'État d'Israël aura été mis sous pression, et la pression ne peut être qu'économique, puisqu'aujourd'hui la pression diplomatique ne fonctionne pas. Alors nous avons ici quand même des atouts, c'est que d'un point de vue économique, l'Europe a signé des accords privilégiés avec Israël, et bien l'Europe aujourd'hui est en propre contradiction avec son droit interne. Et c'est bien là-dessus que nous devons traiter. Je termine avec le dernier aspect, côté citoyen. Nous avons 12 militants qui sont aujourd'hui poursuivis. Et en tant que citoyen, je suis tout simplement choqué parce que, d'une part, ils n'ont fait qu'exprimer une opinion, une analyse. Bien sûr, toute analyse peut être discutée, mais dans un état de droit comme le nôtre, on doit pouvoir exprimer une analyse, et lorsqu'elle est exprimée comme elle a été faite, il est rigoureusement inconcevable qu'on puisse poursuivre des militants sous les chefs d'inculpation qui ont été mis en avant. Je rajouterai, les militants ont fait le boulot que la DGCCRF ne fait pas, c'est-à-dire la répression des fraudes, c'est de montrer qu'il y a une fraude généralisée sur les produits labellisés Israël, alors qu'ils sont faits sur des territoires coloniaux, des territoires occupés. Donc, poursuivre les militants pour ce travail d'information, je trouve ça quand même assez gros. Et puis, il y a enfin, c'est le troisième volet, c'est la différence de traitement. Je vois mon copain Henri Stoll derrière, qui avait accueilli il y a, bon, ça fait un peu plus d'un an, un grand meeting de solidarité avec la Palestine, où toutes les personnes qui étaient à la tribune ont pris publiquement parole pour appeler au boycott, en disant aux gens, portez les t-shirts que portaient les militants à ce moment-là. Distribuer les tracts pour boycotter. Boycottons. Aujourd'hui, la justice poursuit ceux qui distribuent les tracts. Et ceux qui ont appelé au boycott, il faut aussi les poursuivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes un certain nombre, Henri, Guy et d'autres, nous sommes cinq, avoir demandé à être co-inculpés, co-responsables. Alors oui, si on poursuit les militants, il faut aussi poursuivre ceux qui ont charpoté à un moment donné les campagnes de boycott. Les lettres avec accusés de réception que nous avons adressées au procureur de la République aujourd'hui n'ont toujours pas reçu de réponse. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous insistions, nous voulons une réponse, nous voulons être inculpés de la même manière, c'est tout simplement au regard d'un principe républicain de base, c'est l'égalité. Si les militants sont je conclurai en disant c'est donc le moment, bien entendu, d'élargir la campagne. Pour élargir cette campagne, nous devons faire œuvre de pédagogie, j'ai peut-être dû en surprendre l'un ou l'autre lorsque j'ai parlé de cette problématique non-violente. Prenons par la main déjà les gens où ils en sont, montrons-leur que l'image de la spirale de la violence, même si elle a une apparence de vérité, elle cache la réalité, c'est la violence structurelle. Et puis je crois probablement qu'il faut élargir le boycott sur la dimension qui fera le plus mal, c'est la question des banques et du financement d'Israël. Parce que les oranges, etc., c'est bien pour faire de la pédagogie, mais le souvenir que j'ai, c'est que ça a commencé à faire mal du côté de l'Afrique du Sud, lorsque les campagnes de boycott des banques ont été mises en place, je pense notamment à l'époque de la BNP. On disait, vous investissez là-bas, eh bien, on change de compte, on va arriver, et en expliquant pourquoi. Voilà, je ne vais pas être trop long, parce que l'objectif est quand même que nous débattions entre nous. Merci de votre attention.